Alors, donc on m'a demandé de vous parler de la Vierge Marie, et notamment de la prière du chapelet, parce que d'après ce que j'ai compris, vous avez un peu un style de prière. Ça, toutes les semaines, vous découvrez une autre manière de prier, c'est un peu ça ce que j'ai compris. Ouais. Mais la demande était assez précise, et on m'a dit qu'avant de vous parler du chapelet, on voudrait que je parle de dogmatique mariale. Alors, c'est pas mon premier, moi, je suis d'abord philosophe, en fait. Enfin, j'essaie d'enseigner la philosophie contemporaine, mais j'aime beaucoup la Sainte Vierge. Donc, je vais essayer de vous donner quelques clés, effectivement, de mariologie, même si c'est pas mon domaine en premier. Enfin, mais il se trouve que j'ai écrit pas mal sur Marie aussi, en philosophie, mais cette figure mariale me parle, et notamment, donc justement, alentour du verset, le gros livre là, c'est un livre de philosophie, mais avec 20 chapitres qui reprennent les 20 mystères du rosaire. Donc je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé peut-être aussi de vous parler, mais là je vais vous parler de spiritualité, pas de philosophie, mais c'est, j'ai mis dans ce livre en regard les mystères de la vie du Christ, du rosaire, et des thèmes de la philosophie contemporaine, notamment la phénoménologie, parce que c'est plus ce que je connais, donc on parle mieux de ce qu'on connaît. Et donc, par exemple, je prends des exemples, ce sera plus clair dans votre esprit. Par exemple, l'Annonciation et le commencement chez Hannah Arendt, la Visitation et la maison chez Lévinas, la Nativité et la chair chez Merleau-Ponty, etc. Puis après, il y a tous les mystères, donc les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Et comme les mystères glorieux finissent avec la Sainte Vierge, ben, évidemment, je parle aussi pour Marie, par exemple, de la louange chez Jean-Louis Chrétien, etc. Et l'idée, c'était vraiment de montrer comment le Christ prend à bras-le-corps, voilà, tous les mystères de la vie humaine, et comment c'est les manières dont les philosophes ont réfléchi ces phénomènes, en fait, donnent de l'épaisseur aussi à l'incarnation du Christ. C'est un peu une mise en regard, voilà. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler ce soir. Ce soir, je vous propose simplement de parler de Marie dans l'écriture, dans Marie dans l'histoire du dogme, et puis Marie dans la prière du chapelet. Donc j'espère que en 40 minutes, je vais y arriver. On verra. Ce que je vous propose, c'est de commencer. On a déjà prié tout à l'heure à la messe, mais je pense que vous connaissez ce chant, et je vous propose de chanter pour se remettre sous le regard de Marie, avec cette belle image d'Arcabas où on voit Marie qui est dans l'ombre, parce que c'est son fils qui doit être dans la lumière. Donc Marie, elle est toujours comme ça. Quand on parle de Marie, c'est toujours pour mieux, et elle nous conduit toujours à son fils. Vous connaissez ? Je vous laisse entonner tout ça, parce que je pense que...
C'est devant des tentations, s'élève. Si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde les toits.
Alors, je vous propose d'avoir quelques repères scripturaires sur la Vierge Marie, parce que on la connaît d'abord par les Écritures, avant les apparitions et tout plein d'autres choses. Mais voilà, pour se mettre à son école, la première étape, c'est vraiment d'aller regarder les Évangiles. Ce qu'on nous dit d'elle, c'est assez peu de choses en fait, mais qui sont denses, et de méditer les quelques paroles qui nous restent d'elle, 7 si on compte le Magnificat pour une, et son silence à la croix pour une aussi, parce que c'est un silence éloquent. Et puis on peut aussi bien sûr découvrir dans l'Ancien Testament des préfigurations du mystère de Marie, avec les matriarches, la Vierge qui enfantera l'Emmanuel, les images du buisson ardent, le petit nuage que Élie voit au loin, qu'un certain père de l'Église voit déjà Marie là, et puis la colonne d'encens qui monte du désert dans le Cantique des Cantiques, etc. Donc il y a plein de possibilités. Moi, ce que je propose simplement, c'est de regarder les mentions de la Vierge Marie dans les Évangiles et de voir un peu un thème principal qu'on peut retrouver. Donc, par exemple, dans l'évangile de Luc, on ne va pas lire toutes les occurrences, mais vous voyez, l'évangile de Luc parle quand même pas mal de la Vierge Marie. Et chez Luc, dans toutes ses mentions, Marie, c'est vraiment la fille de Sion par laquelle Dieu réalise sa promesse. Donc, on va voir Marie, une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, etc. Que tout va bien selon ta parole. Marie se mit en route dans une région de la Judée. Élisabeth, à son contact, est remplie d'Esprit Saint, etc. Marie chante le Magnificat, qui est une sorte de synthèse du cantique d'Anne en 1 Samuel, etc. Et puis, on va avoir, heureuse la mère qui t'a porté. Marie, c'est vraiment c'est la fille de Sion qui accomplit la grande attente du peuple d'Israël. Donc c'est intéressant de voir que chaque évangéliste va un peu mettre le spot, si vous voulez, sur un mystère de la Vierge. Et vraiment, je vous invite, si vous avez envie un peu de prolonger ce moment qu'on aura vécu ensemble, c'est d'aller simplement voir dans votre Bible, d'aller voir les mentions. C'est pas difficile, vous pouvez faire AELF Marie et puis hop, vous trouvez toutes les mentions qui sont données dans les évangiles. Et parce que vous allez voir, c'est pas les mêmes, c'est pas le focus n'est pas mis sur la même chose selon les évangiles. Chez saint Matthieu, moi je vais vite, j'ai pas beaucoup de temps. Chez saint Matthieu, Marie, c'est d'abord la mère, la mère de Jésus bien sûr, mais la mère. Et donc vous voyez, Joseph l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, Marie sa mère fut enceinte, Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle, donc ne crains pas Joseph de prendre chez toi Marie, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, n'est-il pas le fils du charpentier, sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Donc là c'est une autre manière d'appréhender le mystère marial, qui est, bien sûr, c'est la manière, on va voir après, c'est la manière qui va retenir les premiers chrétiens, ça va être le premier titre de Marie, Marie mère de Dieu, Marie mère, bien sûr, du Christ, mais en tant que Dieu. Et ici, c'est vraiment, c'est intéressant de voir que elle est vraiment présentée à travers sa maternité. Voilà, chez Jean, c'est toujours un peu plus théologique, enfin théologique autrement en disant, chez Jean, Marie, c'est vraiment la nouvelle Ève, c'est la femme qui est la vraie mère des vivants. Il y a aussi bien sûr la mention de la mère de Jésus, sa mère lui dit... Faites-le, tout ce qu'il vous dira, faites-le, etc. Voici ta mère à la fin, au pied de la croix. Mais Jésus l'appelle aussi de ce nom assez étonnant, finalement, femme, et plusieurs fois. À Cana, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, ou que me veux-tu, on peut traduire de deux manières. Mon heure n'est pas encore venue, et puis femme, voici ton fils. Donc c'est vraiment la femme accomplie, c'est la nouvelle Ève, celle qui peut recueillir son mystère, la figure de l'Église aussi déjà, bien sûr. On a aussi des mentions, alors, de Marie, ou en tout cas d'une figure de femme dans l'Apocalypse, alors qu'on identifie à l'Église, mais qu'on identifie aussi à la Vierge, donc c'est pour ça que j'en parle. Marie dans l'Apocalypse, ou l'Église, mais Marie en tant que figure de cette Église, est celle qui enfante la victoire finale. C'est la femme enceinte dans l'Apocalypse. C'est aussi l'icône de l'Église. Alors, voilà, c'est une sorte de condensé de ce qu'on vient de voir aussi dans les Évangiles. Hein. Une femme ayant le soleil pour manteau, la femme qui allait enfanter, donc la mère, la femme mit au monde un enfant mâle, elle s'enfuit au désert. Elle est deux fois au désert. Hein. La terre vint au secours de la femme, j'aime bien cette phrase. Voilà, et puis... voilà, le dragon se mit en colère contre la femme et sa descendance. Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Alors, évidemment, là, c'est l'Église, mais Marie est aussi une figure de l'Église. Alors ça, c'était juste pour vous remettre en mémoire un peu ce qui est dit de Marie dans les Écritures, en tout cas dans le Nouveau Testament. Et maintenant, je vous propose quelques repères dogmatiques. Alors, j'aime bien, les enfants sont nos maîtres en théologie. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire de l'éveil à la foi ou du catéchisme, enfin bref. Mais je vous raconte une anecdote. Un petit garçon de 6 ans qui préparait sa première communion, et on lui demande pourquoi Dieu a-t-il pris un corps d'homme ? Pourquoi est-ce que Dieu est venu sur terre ? On s'attendait à ce qu'ils disent, hein, c'est pour nous sauver, voilà, quelque chose comme ça. Et le petit garçon dit, il a un temps de silence, il cherche, et tout d'un coup il dit, peut-être que c'est parce qu'il avait envie d'avoir une maman. Voilà. Je trouve que c'est extraordinaire en fait, comme idée de l'incarnation, vous voyez ? Dieu a eu envie aussi d'avoir une maman. C'est pas, bien sûr, il est venu nous sauver, il est venu pour ça aussi, mais peut-être qu'il n'y avait pas que ça. Voilà. Et lui qui a créé les mamans, il voulait... Voilà. Alors, on va voir que justement, Marie-Mère de Dieu, ça va être le premier grand titre de la Vierge. Il y a des moustiques. voilà, dans les premiers temps chrétiens. Donc, alors, il faut savoir que la mention d'une certaine dévotion mariale est ancienne. Hein. On a déjà chez Saint Justin, donc au IIe siècle, le patron des philosophes, alors j'aime bien, déjà Saint Justin parle de Marie comme la nouvelle Ève. Donc ce thème, on va le retrouver plusieurs fois. Chez Saint Irénée aussi, la désobéissance d'Ève a été dénouée par l'obéissance de Marie. Donc il y a ce jeu entre, qu'on va retrouver au Moyen-Âge, entre Ave et Eva. Marie qui inverse le nom d'Ève par son fiat. Mais le mot Théotokos, donc, c'est-à-dire celle qui enfante Dieu, Marie, mère de Dieu, apparaît assez vite, et on a des bribes d'une prière, de la prière du Subtuum, hein, de sous l'abri de ta miséricorde, qui date du 3e siècle, sur ce papyrus là que vous avez là, qui a été retrouvé en 1917, et qui est un papyrus égyptien, et dans lequel vous avez le mot là, Théotoké, voilà. C'est la première mention qu'on a d'une prière à Marie, Marie, mère de Dieu. première mention d'une prière chrétienne dédiée à Marie. Théotoké, bien sûr, là, on n'a pas tout, enfin, il manque des... Mais on a pu recomposer la prière, donc qui est le... qu'on dit encore aujourd'hui, hein, le subtum, le sous ta miséricorde, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu, etc. Or, ce vocatif grec, ici, il est antérieur au concile d'Éphèse, donc c'est le concile d'Éphèse qui va vraiment confirmer que Marie est... On peut l'appeler Mère de Dieu, mais vous voyez, c'est souvent les conciles, en fait, ils ne font que... Il confirme des choses qui sont déjà, qui existent déjà dans l'Église. Comme c'est pas, ça tombe pas du ciel sur les pères conciliaires, mais au contraire, c'est plutôt une confirmation du sensus fidei des fidèles, de quelque chose qui déjà court donc dans au milieu de voilà du peuple de Dieu. Et là, cette prière, elle est attestée. Dans l'histoire, elle a été attestée avec des variantes un peu, d'accord, mais dans la liturgie byzantine, dans la liturgie copte, dans la liturgie éthiopienne, dans la liturgie ambrosienne, donc de Saint Ambroise de Milan, puis dans la liturgie latine. Donc vous voyez, cette prière, en fait, elle a vraiment couru dans toute la chrétienté des premiers temps de l'Antiquité chrétienne. C'est Saint Ambroise de Milan justement qui a créé la liturgie ambrosienne à Milan. C'est Saint Ambroise de Milan qui va traduire ce mot Théotokos par Mater Dei, parce qu'il veut, il va faire chanter le subtum dans son diocèse. Ça fait partie de sa liturgie. Et voilà. Alors la légende veut que Saint Ambroise ait une apparition de Marie, mère de l'Église, etc. Mais bon, après on rajoute toujours, vous savez, pour. Pour donner du poids, mais ce qui est, pour la petite histoire, ce qui est drôle, ce soir je vous parle, on est le 6 octobre, demain c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire, et en fait le sous ta miséricorde, ce chant, est indiqué au XVIIe siècle comme la finale des laudes de Notre-Dame du Rosaire, donc demain vous pouvez chanter, parce que voilà... cette fête, hein, qui date du XVIe siècle, en souvenir de la victoire de Lépante contre les Turcs de 1571, où on a fait réciter le rosaire, et voilà, comme la victoire a eu lieu, il y a eu une fête qui a été introduite. Alors, au IVe siècle, donc au concile de Nicée, déjà, on appelle Marie Théotokos, donc en 325, et ça semble aller assez de soi, enfin ça pose pas de problème, ça pose pas de problème à personne à ce moment-là, mais ça va se corser au 5e siècle, parce que vous savez bien, enfin je sais pas si vous savez, mais je pense quand même que vous avez un peu des notions, que on va avoir Nestorius qui va créer une hérésie et qui va contester Marie, mère de Dieu, dans les années 430, quelque chose comme ça. Il va mettre en question cette maternité divine de Marie, et alors on va commencer à se poser plein d'autres questions en même temps. Donc c'est le moment où on se demande si sa virginité est perpétuelle ou pas, si elle est sainte, si qu'est-ce que c'est son impeccabilité, qu'est-ce que c'est que cette conception virginale de Jésus, est-ce que sa naissance est miraculeuse ou pas, est-ce que Marie avait besoin d'être rachetée ou pas. Donc voilà, toutes ces questions apparaissent, et puis ça va courir tout le long de l'histoire de l'Église. Et donc en 431, le concile d'Éphèse va statuer, voilà, que ça devient un dogme, hein, que Marie est mère de Dieu, et qu'elle est vierge avant, pendant et après la conception. Et alors les Byzantins vont même aller plus loin, ils vont dire qu'elle est vierge avant, pendant et après l'enfantement. pour dire, voilà, qu'on peut vraiment l'appeler vierge et en même temps mère de Dieu. Mais c'était pas si simple, hein, Tertullien, Saint Jérôme, sont pas d'accord entre eux, enfin ils sont pas d'accord sur ces questions-là. Saint Basile, Saint Jean Chrysostome, ils hésitent sur l'impeccabilité de Marie, mais Saint Ambroise et Saint Augustin disent mais si, enfin voilà, donc c'est pas ça. Mais c'est pour vous dire que, alors on commence à réfléchir, mais on a d'autres questions qui apparaissent un peu après le Concile d'Éphèse sur Marie, qui sont des questions par rapport à sa dormition. Donc, comment est-ce qu'elle est morte ? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est morte ? Si elle est sainte, est-ce qu'elle est morte ? Si jamais la mort, c'est une conséquence du péché originel, alors est-ce qu'elle a le péché originel ? Voilà, toutes les questions autour de l'Immaculée Conception, l'Assomption, la dormition, arrivent là. Et puis, vous avez... voilà, enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais... Pour Pélage, Marie est sans péché en soi. Pour Augustin, Marie est sans péché personnel, par grâce anticipante du Christ, mais sur le péché originel, il ne sait pas trop. Enfin, voilà. Donc, pendant que les savants discutaillent, le peuple, lui, y célèbre. Alors, on va avoir des fêtes mariales qui vont se mettre en place. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, voilà, c'est plus par les fêtes, finalement, que les choses vont devenir... Donc, c'est par la liturgie, en fait, hein, que les choses vont se clarifier, voilà. Et les débats s'apaiser. Sauf celui de l'Immaculée Conception qui va... Vous allez voir, c'est un débat qui c'est pour ça que c'est un dogme très tardif, parce que ça n'a pas arrêté pendant pendant des siècles. Mais les fêtes mariales qui apparaissent, dès le 5e siècle à Constantinople, on a une mémoire de la Vierge... de Marie Vierge et Mère... qui est le lendemain de Noël, le 26 décembre. Et du coup, à Antioche et Alexandrie, on va avoir une fête mariale dans l'octave de Noël. Voilà. Après, chaque diocèse a un peu choisi. Mais en gros, au moment de Noël, on a une fête mariale dès le 5e siècle, ce qui va donner aujourd'hui, hein, on a le Marie-Mère de Dieu, le 1er janvier, qui est effectivement dans ce moment du temps de Noël, qui a été remis en vigueur voilà, après tout un temps. À Jérusalem, au 5e siècle, on fête Marie, Mère de Dieu, le 15 août. Alors c'est drôle parce qu'évidemment ça va devenir l'Assomption pour nous plus tard. Dès le 6e siècle, en fait, ça devient l'Assomption ou la dormition, en fait, le mot oriental, c'est dormition, pour dire que Marie s'est endormie dans le Christ et elle est montée au ciel, voilà, dans le mouvement de sa remise de soi au Père par son Fils dans l'Esprit. Et le 25 mars, l'Annonciation est déjà en place dès le 6e siècle aussi, la Nativité de la Vierge le 8 septembre aussi, donc vous voyez, il y a déjà des fêtes qui se mettent. Le 25 mars, c'est parce que c'est 9 mois avant Noël, vous avez compris, je pense. 25 décembre, 25 mars. Au 7e siècle, on a une fête de la Conception de la Vierge qui apparaît le 9 décembre, donc ça va devenir le 8 pour nous, l'Immaculée Conception. Et alors c'est intéressant parce qu'en Angleterre, ça devient une fête officielle au 9e siècle, donc... et ça va... Enfin, je vous le dis ça parce qu'après, on va voir que ça va être... certains vont dire, mais c'est une fête anglaise, ce truc, ça, c'est une fête de là-bas, insulaire, là-haut. Voilà. Mais les Anglais, ils ont la primeur, presque, si je puis dire, de la Conception de la Vierge. Voilà. En Orient, par contre, on va avoir la fête de la Présentation de la Vierge, qui va être une fête très prisée, le 21 novembre, mais qui vient des évangiles apocryphes. Hein, la petite Marie à 3 ans, qui est présentée dans le temple et tout, ça, c'est pas dans les évangiles. C'est dans les évangiles apocryphes, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le canon, qui ont pas été, c'est des écrits qui n'ont pas été reconnus comme canoniques. Mais en Orient, cette histoire-là est restée très importante. Et en Occident, il faudra attendre le 15e siècle pour qu'on fête la Présentation de Marie le 21 novembre. Et puis au 9e siècle, vous avez aussi la Purification de Marie qui arrive, donc c'est le 2 février, ce qui va donner la présentation de, Marie, de Jésus au temple, parce que quand Jésus est présenté au temple, Marie accomplit les rites de purification, comme ça s'appelait dans le judaïsme, parce que toute femme enceinte, puisqu'elle avait du sang, etc., et il fallait qu'elle, qu'elle soit purifiée pour pouvoir revenir dans le temple. C'est au début du règne de Charlemagne, avec Alcuin, que se répand l'usage d'une messe votive à la Vierge le samedi. Donc vous voyez que, voilà, on a vraiment toute une dévotion mariale qui se met en place très très vite, en fait, dans l'histoire de l'Église. Alors, en Orient, les dates sont à peu près inchangées pendant tous ces siècles. En Occident, on va avoir des dates qui changent, vous voyez, le 8 décembre, le 15 août, tout ça, enfin, ça va pas être les mêmes fêtes d'un siècle à l'autre, mais Vatican II va se réapproprier et va remettre ça un peu dans. Voilà. Au Moyen-Âge, on va avoir vraiment la Vierge qui va être présentée en majesté. Des titres autres apparaissent dans les prières au Xe siècle. Marie médiatrice, Marie mère de miséricorde, hein, comme dans le Salve Regina, hein. Marie reine justement, Salve Regina, Marie mère du rédempteur, voire Marie rédemptrice, qui devient au XVe siècle co-rédemptrice, c'est corrigé, parce qu'il n'y a qu'un seul rédempteur, c'est le Christ. Marie trône de la sagesse en Orient, par exemple. Hein. Donc, vous voyez, les titres aussi, les fêtes liturgiques, les titres disent beaucoup de choses sur la manière de percevoir le mystère marial. Et une vraie théologie mariale apparaît en Occident au 11e, 12e, 13e siècle, voilà, dans ces eaux-là, à l'époque des cathédrales. Hein. On a d'abord Saint-Pierre d'Amiens, mort en 1072, qui développe le thème de la compassion de Marie et de la foi de Marie. Donc Marie a eu aussi à vivre de foi comme nous. Elle n'avait pas la science infuse de tout ce qui allait se passer, voilà. Donc c'est intéressant de voir, voilà, les auteurs médiévaux commencent à réfléchir à ça. Marie qui doit vivre deux fois. Saint Bernard, bien sûr, qui est le chantre de Notre-Dame, hein, au XIIe siècle, qui parle, donc on a chanté tout à l'heure un chant qui reprend sa prière. Marie l'étoile dans les périls, Marie l'aqueduc de la grâce. Et puis la finale qu'on dit Bernardine du Salve Regina, « O Clemens, O Pia, O Dulcis, Virgo Maria », on raconte, la légende raconte que c'est Saint Bernard qui aurait, en entendant le Salve Regina, il aurait clamé ça, « O Clemens, O Pia », et alors ça a été rajouté à la fin du Salve. Et alors, les légendes sont extraordinaires, parce qu'il y a même une légende qui dit que la Sainte Vierge lui serait apparue, et en lui disant « Oh, Bernard !» C'est la légende dorée. Hein. Mais n'empêche que cette finale dite Bernardine, voilà, encore aujourd'hui, on la chante. Voilà. Et alors, on a aussi Saint Isaac de l'Étoile, hein, au XIIe siècle, qui va parler de Marie, mère et médiatrice, et Marie... Socia Christi, donc associée du Christ. Voilà, donc vous voyez un peu comment est-ce que chacun cherche à comprendre ce mystère de Marie en accord avec son fils, toujours relative à son fils. Alors cette époque-là, c'est aussi une époque où on commence à soit être très dévot à l'Immaculée Conception, soit mettre en cause... l'Immaculée Conception. Saint Bernard, oui, mais comme Bonaventure, sont contre l'Immaculée Conception parce qu'il se trouve que c'est une doctrine anglaise. Saint Thomas d'Aquin trouve que c'est un risque, ça risque de court-circuiter la rédemption. On va avoir comme ça des écoles pour, contre, ça va faire des grands débats. Mais tous s'accordent sur la toute sainteté de Marie. Alors, avec ou sans péché originel, voilà. Mais Marie toute sainte, qui est un titre, en fait, byzantin, oriental, ça, ils sont d'accord. Au XIe siècle apparaissent, je vous dis déjà ça puisque je vais vous parler du chapelet après, apparaissent les 150 pater, donc les 150 notre père que disent les moines convers dans les abbayes bénédictines quand ils sont au chant, parce qu'ils ne peuvent pas chanter les 150 psaumes, et ils ne les connaissent pas forcément par cœur parce que ce ne sont pas les moines de cœur, donc les moines convers. On va leur proposer de chanter, de dire ou de chanter pendant leur travail les 150 Notre Père. Et puis, donc ça c'est au XIe siècle, et au XIIe siècle, donc c'est là où on voit que la dévotion mariale s'étend énormément, au XIIe siècle ces 150 pater deviennent 150 Ave Maria, et c'est ce qu'on va appeler le psautier de Notre-Dame. Le psautier de Notre-Dame, c'est l'ancêtre du chapelet en fait, hein. C'est 150 Ave Maria des moines. Voilà. Et donc là, vous voyez, la voilà, 12e, c'est vraiment le moment où Marie déploie, enfin le motif marial se déploie dans toute la chrétienté. Ce motif de la maternité et de l'incarnation se déploie en motif de royauté et de compassion. Voilà, Marie, c'est la reine de miséricorde. C'est Marie couronnée, c'est Marie qui intercède, qui est en majesté, puis qui intercède auprès de son fils. C'est Marie au pied de la croix aussi, qui est en intercession. Et la couleur de la Vierge qui était sur les icônes, le bordeaux, qu'on retrouve ici aussi, qui est la couleur de l'impératrice, la byzantine au départ, va se muer avec la belle verrière de Chartres, va se muer en bleu, le bleu royal que le roi de France va, enfin le bleu que le roi de France va prendre comme sa couleur, qui va devenir voilà, le bleu royal, mais aussi le bleu marial, le bleu de Chartres qui est ici, que vous voyez là, qui est en fait un bleu ciel, mais qui va devenir un bleu roi après, parce que selon les vitraux, selon la densité du bleu change. Et c'est intéressant aussi de voir que voilà, la couleur de la Vierge va changer, la robe de Marie va changer selon les époques. Donc du bordeaux, elle devient bleue, puis après elle va devenir or, et puis après elle va devenir blanche. Voilà, on va voir ça dans les différentes... Parce que à chaque fois, ça dit quelque chose sur son mystère. Marie devient aussi la figure de l'Église. Saint François a cette très belle, et Sainte Claire a cette très belle formule. Marie, c'est la Vierge faite Église. Donc ça, on est au XIIIe siècle, vous voyez. Donc c'est vraiment, là aussi, on voit sous son manteau, elle prend toute l'Église. En 1239, le pape Grégoire IX va imposer la récitation du Salve Regina à toute la chrétienté le vendredi au compli, donc une fois par semaine, tout le monde sera invité à chanter le Salve Regina. Ce qui va, 10 ans plus tard, se transformer par les franciscains qui vont dire que finalement ça devrait être le chant de tous les soirs, de toutes les complis, de la Pentecôte à l'avant, et puis il y aura d'autres chants pour les autres moments liturgiques, donc vous connaissez ça peut-être, hein, mais l'Alma Redemptoris Mater de l'avant à la purification de Marie, c'est-à-dire la présentation de Jésus au temple, l'Ave Regina Celorum de la présentation au Jeudi Saint, et le Regina Celi pendant le temps pascal. Voilà. Et après Vatican II, cette classification, elle a été déclarée obsolète, mais en fait, dans tous les monastères, on continue de faire comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours connu ça, et partout où je suis allée, voilà, on n'a pas... On n'a pas réussi à changer ça. On trouve que ça a du sens, quoi. Donc, vous voyez, ça date du XIIIe. Et en 1263, les franciscains vont célébrer une fête de l'Immaculée, qui va être combattue par les dominicains, donc ça va être voilà, la guerre. Alors il va falloir attendre bienheureux Jean Duns-Scot qui va dire bah, en fait Marie elle est sauvée par préservation du péché, par une grâce anticipée de la passion de son fils. Donc c'est cette idée là qui va prévaloir finalement dans le dogme de l'Immaculée. Et qui va être ratifié d'abord par un concile local, le concile de Bâle en 1439, mais qui ne va pas être reconnu par le pape de l'époque parce qu'il y avait trop de dominicains. dans l'entourage. Et même le Concile de Trente va pas pouvoir statuer sur l'Immaculée Conception parce qu'il y a trop de dominicains au Concile de Trente et parce que Pie V lui-même, il est dominicain. Donc voilà, là. Donc on voit très bien. Vous voyez, parfois ça vient de. Enfin, c'est assez drôle de voir comment les choses. Donc on va devoir attendre. Voilà, pour pouvoir célébrer le dogme de l'Immaculée Conception. Donc il faudra attendre le 19e siècle, hein, 1854. Par Pie IX. Là, il n'y aura plus de petites querelles entre dominicains, franciscains ou autres. Voilà. Pour la petite histoire, juste petite parenthèse, Saint Pie V qui a donc promulgué la messe tridentine, en fait, il a jamais célébré vraiment parce qu'il célébrait selon le rite dominicain. Donc, voilà. Alors, parce que... on passe de Marie, mère du Christ dans le passé, à Marie, reine du ciel, qui intercède pour nous au présent. Et on va avoir, je vais passer à la réforme, à la contre-réforme, où on va, après cette, Marie en majesté, Marie la reine qui intercède, on va se focaliser plus sur ce qu'on appelle à l'époque les gloires de Marie, c'est-à-dire Marie ses vertus, Marie son silence, Marie sa manière d'être femme et comment est-ce qu'elle a vraiment vécu de foi. Et on commence au XVIe siècle avec Suarez à avoir une vraie doctrine mariale, ce qu'on appelle la mariologie. C'est-à-dire, lui, il écrit un traité sur les privilèges de Marie. Et, alors, Marie va devenir de plus en plus détachée du commun des mortels, si je puis dire. Hein. Elle va devenir de plus en plus quelqu'un d'un peu à part, un peu exceptionnel. Mais on le fait aussi parce que, on est dans l'esprit de la contre-réforme et que les huguenots, ils mettent en cause la dévotion mariale. Donc, contre les huguenots, on va badigeonner la Sainte Vierge en or et on va la sortir en procession et on en fait... On y va à fond pour dire que mais si, c'est vraiment important, elle est vraiment notre mère, elle est vraiment... cette dévotion, on ne peut pas s'en passer, etc. Donc, et Marie est en gloire. Voilà. Il va y avoir aussi au XVIIe siècle une accentuation autour du thème du cœur de Marie, du cœur admirable de la Vierge. Vous avez ça dans toute l'école française. Donc Bérulle, Ollier, Saint-Jean Eudes notamment, qui parle du cœur de Marie et du cœur de Jésus, qui sont tellement unis qu'ils finissent par être pratiquement plus qu'un. Enfin, ils ne font qu'un comme quand Paul peut dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Vous avez bien sûr Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort au XVIIIe siècle, qui est le chantre de Notre-Dame, avec Saint Alphonse Marie de Liguori, qui écrit un livre qui s'appelle « Les gloires de Marie ». Il a 38 ans quand il écrit ce livre, quand il commence à écrire ce livre, et en fait il va publier son livre 16 ans plus tard, et c'est une paraphrase du Salve Regina, avec médité phrase par phrase avec les pères de l'Église, enfin tout ce qu'on connaît sur Marie. Et en fait, ça va être l'ouvrage marial le plus édité au monde depuis. Donc, faut voir un peu le... Il a été traduit en plein de langues de son vivant, etc. Alors, pour la petite histoire par rapport à la réforme, il faut quand même savoir que Luther a fait un très beau commentaire du Magnificat et qu'aujourd'hui, les luthériens et les réformés sont beaucoup plus ouverts à l'acceptation d'un culte marial. Il y a même eu un document du groupe des Dombes qui s'appelle Marie dans le dessein de Dieu en 1997 qui a été paraphé par catholiques, luthériens, réformés. Par contre, les baptistes et les évangéliques sont catégoriquement refusé tout culte marial. Les anglicans, par contre, ils ont avec nous 5 fêtes mariales en commun: Nativité, Immaculée Conception, Annonciation, Visitation, purification, enfin, donc présentation pour nous, et parfois même l'Assomption. Et ils reconnaissent, le dogme de l'Immaculée Conception, ils reconnaissent aussi l'Assomption depuis 2005. Donc vous voyez, il y a aussi des avancées encore hein, de théologie mariale aujourd'hui dans le dialogue œcuménique aussi. Voilà. Alors, je passe sur les controverses encore sur la fête de l'Immaculée, mais en 1708, Clément XI autorise une fête de l'Immaculée Conception. Et puis, au XVIIIe siècle, on va promouvoir la prière de l'Angélus. Et puis après, il y a la Révolution française qui va tout mettre par terre. Et la dévotion mariale va ressusciter plutôt à la faveur des apparitions, il faut dire les choses. Donc c'est la Sainte Vierge elle-même qui vient nous dire, voilà, veuillez faire des chapelles, des processions, etc. Voilà, comme à Lourdes, hein, 1830, la rue du Bac, etc. Et puis... Donc, le dogme de l'Immaculée Conception 1854, pardon, je suis peut-être... Oui, c'est ça, voilà. Et les apparitions de Lourdes, 4 ans plus tard, qui sont comme une confirmation, puisque Marie dit « Que soira Immaculada Conception », donc elle parle dans le patois de Bernadette, mais voilà. Et Bernadette, c'est pas ce que ça veut dire. Donc, vous savez, vous connaissez l'histoire, elle répète tout le long du chemin ce mot. Je passe à la période contemporaine, ça y est, on arrive. C'est un peu le temps de la Vierge eschatologique, je ne sais pas comment dire autrement. C'est Marie, reine du ciel et mère de l'Église. Alors, en 1930, le thème de l'Assomption réapparaît dans les recherches qui vont aboutir d'abord à une fête, la fête du cœur immaculé de Marie, en 1942, qui est promulguée par Pie XII d'abord le 22 août, dans l'octave de l'Assomption, puis... Maintenant, on sait qu'elle a été transvasée le lendemain du Sacré-Cœur, et le 22 août, c'est devenu la fête de Marie-Reine. Et donc, en 1950, le dogme de l'Assomption est promulgué par Pie XII. Et en 54, promulgation de la fête de Marie-Reine du Ciel, qui donc au départ était le 31 mai, mais qui a changé de place à cause de la visitation. Voilà. Donc, vous voyez que ça bouge pas mal, les dates. Voilà. On a d'autres titres de Marie qui apparaissent et qui font controverse. Marie avocate, Marie médiatrice, ça revient. Marie corédemptrice, ça revient. Et Marie auxiliatrice. Voilà. Donc tous ces titres sont controversés. Et pour l'instant, les théologiens ne se sont pas tout à fait mis d'accord là-dessus. En 1959, quand Jean XXIII convoque le Concile Vatican II, on enquête parmi les évêques, les abbés et les théologiens. Et dans cette enquête, donc sur 2000 demandes de toutes ces personnes-là qui arrivent à Rome, il y a 600 demandes concernant la Vierge Marie. Donc c'est quand même pas mal. Et on demande d'éviter de nouveaux titres qui vont mettre en difficulté le dialogue œcuménique. Ou bien on demande au contraire que Marie soit définie comme corédemptrice, comme médiatrice. En fait, rien de cela ne va être fait. Jean XXIII voulait, lui, le titre de mère de l'Église, mais on va ergoter. On va dire, ah, mais est-ce qu'elle est mère de l'Église Est-ce qu'elle la précède? Est-ce qu'elle est mère dans l'Église, plutôt? Elle l'accompagne? Enfin, voilà, on cherche. Elle est membre de l'Église, ou bien elle est hors l'Église parce qu'elle est suréminente? Voilà, on cherche. Et le texte, le schéma préparatoire sur Marie, qui s'appelle le De Beata, de la Bienheureuse, on parle toujours de la Bienheureuse Vierge Marie, ce schéma préparatoire, on se demande, est-ce qu'il faut faire un texte à part sur elle ou est-ce qu'il faut l'intégrer dans une constitution conciliaire? Et finalement, en fait, il va être intégré dans Lumen Gentium, au chapitre 8. Donc c'est intéressant de voir combien ça a bougé. Et les pères conciliaires n'étaient pas du tout d'accord. Hein. Il y a eu 1074 voix pour Marie à part, pleine de grâce du côté du Christ, car sans péché. Et 1114 voix pour Marie dans l'Église, première de cordée, du côté des hommes, première rachetée. Vous voyez ? Donc on était vraiment, c'était vraiment très très proche. Voilà. Et finalement, le Concile va prendre une voie médiane hein, en 64. Et donc on choisit d'inclure le texte sur Marie dans la Constitution sur l'Église, avec comme titre « La bienheureuse Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l'Église ». Donc on essaie de... Voilà, elle est dans le mystère de son fils, dans le mystère du Christ et de l'Église. mais elle est intégrée. Mais il n'y a pas de mention de Marie, mère de l'Église, dans le texte. Vous savez bien que c'est un peu le coup de théâtre, c'est que Paul VI va reprendre ce titre dans son allocution finale de clôture du concile. Et il va y avoir une ovation des pères, en fait, lorsqu'il va parler de Marie, mère de l'Église. Et le pape François en a fait une fête, hein, le lundi de Pentecôte. Donc ça, voilà, ça vous donne un peu... Voilà, c'est intéressant de voir comment ça marche. Alors, je vous lis un passage de Lumen Gentium. En raison du don et du rôle de la maternité divine par laquelle elle est unie à son Fils, le Rédempteur, et à ses grâces et fonctions singulières, la Sainte Vierge est aussi intimement unie à l'Église. Comme l'a enseigné Saint Ambroise, la Mère de Dieu est un type de l'Église dans l'ordre de la foi, de la charité, de l'union parfaite avec le Christ. Et puis en 74, Saint Paul VI va écrire un Marialis Cultus, donc un encyclique sur la dévotion mariale, qui va un peu recadrer la dévotion mariale, qui était soit décriée à ce moment-là, en 74, dans les années 70, hein, soit elle était décriée, tombée en désuétude, comme quelque chose de qui était une dévotion obsolète, et puis Marie comme une figure féminine beaucoup trop traditionnelle, vierge au foyer, tout ça, ça plaisait plus trop dans les années 70. Pour vous donner un ordre de grandeur, on passe de 30% de chants à Marie à 5% dans les carnets de chants et les recueils de cantiques paroissiaux après le concile. Donc vous voyez ça. Waouh. Mais en fait, le concile a maintenu les 17 fêtes mariales de l'année liturgique. On en a quand même beaucoup. Enfin, il y en avait 19 avant lui, mais finalement, on en a 18 maintenant que François a rajouté Marie, mère de l'Église. Donc, bon, voilà, on a 18 fêtes mariales. Mais simplement, on rappelle que ces fêtes sont dans le cycle liturgique en cohérence avec le mystère pascal. Et les fêtes mariales, le prêtre porte l'habit blanc, hein, puisque c'est l'habit de la résurrection du Christ. Les fêtes mariales sont toujours des fêtes qui sont relatives au mystère pascal du Christ, à la résurrection du Christ. Et donc ça se dit même dans le vêtement. Il peut y avoir des broderies bleues et tout, parce que le bleu est devenu la couleur de la Vierge, je vous ai dit, au XIIIe, et puis après... le blanc aussi à cause de l'apparition à Lourdes et de l'Immaculée Conception. Voilà, je termine juste sur Paul VI parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Il dit qu'il y a quatre notes du culte marial. Il faut que ce culte soit biblique et non pas imaginaire. Il faut que ce culte soit liturgique et non pas seulement dévotionnel ou personnel. Que ce culte soit œcuménique et non pas confisqué pour s'opposer à d'autres, et que ce culte soit anthropologique, c'est-à-dire concret, actuel, et non pas éthéré, glamour, je sais pas quoi. Ouais. Donc c'est intéressant, je pense, pour nous aussi, pour vraiment comprendre comment l'Église nous propose d'avoir non pas une adoration, parce que ça c'est seulement à Dieu seul qu'on adore, mais une vénération à la Vierge qui nous emmène vers Dieu. Voilà, et puis après, bien sûr, vous avez Jean-Paul II, qui est un grand saint marial, qui écrit Redemptoris Mater, qui revisite les intuitions de Vatican II, et puis Rosarium Virginis Mariae, et voilà, j'arrive au rosaire, en 2002. Alors, comme on m'a demandé de vous parler du chapelet du rosaire, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je vais quand même essayer de le faire, quelques minutes. Je voudrais vous dire que prier le chapelet, alors c'est mes mots à moi, mais j'aime bien dire que c'est une prière charnelle, christocentrée, unifiante et altruiste ou d'intercession. Et je pense qu'à l'heure où beaucoup de nos contemporains recherchent les bienfaits de la méditation sous des formes variées, du zen au mantra, peut-être que la prière du chapelet peut vraiment nous aider à redécouvrir une unité autre, voilà. Parce qu'elle va associer à la fois méditation, répétition et corporéité, mais en l'orientant vers Dieu et non pas en essayant de faire du vide pour déstresser. Voilà. Mais au contraire, le rosaire va nous proposer d'être comblé de grâce avec Marie dans son mystère, dans le mystère de son fils. Alors d'abord, le chapelet, c'est une prière charnelle, parce que c'est une prière d'abord qui vient de... c'est une prière au départ qui nous met en mouvement, enfin, c'est-à-dire que les premiers moines converts, ils faisaient cette prière en travaillant, ils faisaient cette prière en se déplaçant. Donc c'est une prière qui est une prière de marche, de labeur manuel, de transport. Donc on prie très bien dans les transports en commun ou en marchant, en pèlerinant le chapelet. C'est vraiment une prière corporelle aussi avec les grains du chapelet. On les touche, ils passent dans nos doigts. C'est une prière rythmée et simple à mémoriser qui épouse le pas, hein, qui se compte sur les doigts, qui se dit au gré du souffle. Et ces phrases sont courtes et s'articulent autour de deux noms. Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. Et Jésus, le fruit de vos entrailles béni. En latin, on finit avec Jésus. Donc, vraiment, c'est une sorte de prière de Jésus, si je puis dire, comme vous savez, vous connaissez la prière byzantine. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur, la prière du pèlerin russe. Il répète le nom de Jésus. Voilà. Bien, en fait, dans le chapelet, on répète le nom de Jésus aussi, qui est au cœur de la prière de l'Ave Maria. Et ce va-et-vient d'une prière répétitive, ce mouvement de scansion, qui est selon la respiration, selon la marche, nous rappelle que nous sommes en chemin, pèlerins et voyageurs sur la terre. Et donc c'est comme une sorte de prière de transition, c'est une prière pascale. Et c'est le paradoxe, c'est que c'est souvent la seule prière qui reste quand on est malade, quand on est paralysé, affaibli, mourant. On n'est plus en état de prier, mais il y a encore le chapelet, si vous êtes allé dans des EHPAD, tout ça, enfin... Moi, je me souviens vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup de fois dit des « Je vous salue Marie » avec des personnes âgées. Il suffisait que je leur propose et tout de suite, c'était oui. Et il n'y avait pas de problème. Voilà. Même avec des gens qui avaient perdu la tête et tout ça. Et ce chapelet, justement, il dit quelque chose quand on est dans un état comme ça de transition, de la maladie à la santé ou bien de la maladie à la mort. Le chapelet nous rappelle pudiquement que nous n'avons pas à nous installer ni dans la maladie ni dans la mort, mais qu'il existe une autre transition, voilà, vers la vie éternelle, vers la guérison. Et donc, je pense qu'il y a vraiment... on entre charnellement dans l'espérance du ciel. Il y a une sorte de visée eschatologique, si vous voulez, dans la prière du chapelet. En tout cas, moi, je le sens comme ça. Et on croit à la résurrection de la chair, donc c'est intéressant d'avoir une prière qui fait appel aussi à notre corps, voilà, pas seulement à notre conscience. Voilà. Le chapelet passe par notre corps. Deuxièmement, le chapelet, c'est une prière christocentrée. C'est aussi pour ça que c'est une prière pascale, aussi, pour cette raison-là. Parce qu'il nous fait communier au mystère du Christ. Donc c'est à partir du XIIIe siècle que les chartreux puis les dominicains vont ajouter ce qu'on appelle des clausules aux Ave Maria, c'est-à-dire des phrases sur les mystères, et ça va devenir après donc les 15 mystères, les 15 d'abord puis les 20 mystères du rosaire que vous connaissez, je pense. C'est Jean-Paul II qui rajoute les mystères lumineux, voilà. Mais c'est Saint Pie V qui a validé les mystères joyeux, douloureux et glorieux au XVIe siècle. Alors, certes, le lien avec... Puisque maintenant, il y en a 200 et non plus 150, le lien avec les 150 psaumes, il est un peu perdu. Mais par contre, le lien avec les mystères de la vie du Christ, il s'étoffe. Voilà. Et cette prière, j'ai envie de dire, elle est mariale parce que christocentrique. Parce que Marie toujours nous mène au Christ. Et le chapelet se transforme finalement, grâce au mystère, en une sorte de lectio divina mariale. Il ne s'agit pas à chaque fois de relire tout un évangile en entier, à chaque fois au début, mais juste une phrase d'évangile, ça suffit pour faire méditer l'écriture. L'annonciation, rien n'est impossible à Dieu, ou bien qu'il me soit fait selon ta parole. Et ça suffit. Et après, hop, on commence les Ave Maria, avec vraiment cette saveur de l'écriture en bouche, et je peux dire dans le cœur, quoi. Et puis, le chapelet, c'est aussi une prière très unifiante, qui va unifier notre mémoire, notre intelligence, notre volonté, notre conscience, notre imagination, etc. C'est une prière complète, si je puis dire, qui va engager tout notre être. D'abord parce qu'on ne le dit pas d'abord pour soi, mais pour d'autres. Mais aussi parce que ces répétitions ne visent pas une dépersonnalisation, comme on pourrait avoir ça dans, par exemple dans les mantras bouddhistes, hindouistes, qui veulent déconnecter la conscience. À force de répéter, en fait, vous vous déconnectez de votre propre conscience, vous désensibilisez le corps. C'est tout le contraire, en fait, dans la prière du chapelet. On va unifier corps, âme, esprit, et on va avoir une sensibilité accrue et une conscience plus vive de l'amour de Dieu. La mémoire, comment est-ce qu'elle est prise en compte dans le rosaire? Bien sûr, avec la mémoire des mystères de la vie du Christ, mais plus profondément avec ce qu'on appelle la memoria Dei, c'est-à-dire le souvenir de Dieu. Puisque je vais me souvenir de la vie du Christ, c'est que je vais me souvenir tout simplement de Dieu lui-même. Et du coup, le chapelet, c'est une sorte de prière de résistance, si vous voulez, contre l'oubli ambiant de Dieu. Voilà, parce que aujourd'hui, on n'est pas dans un monde qui est contre Dieu, on est dans un monde qui oublie Dieu, pour lequel Dieu n'est plus une question. Voilà. Dieu n'a plus lieu d'être. Voilà. Et donc, c'est une résistance sans violence, sans bruit, mais tenace, comme Marie qui faisait mémoire de tout en revenant dans son cœur. Parce que finalement, c'est quand même la première délicatesse qu'on peut offrir à Dieu, c'est quand même de faire cas de lui. Voilà. Voilà. Alors, la mémoire. L'imagination, ensuite, par la contemplation des mystères. On peut jouer avec Saint Ignace de Loyola, imaginer, sentir, goûter la scène. Voilà. Mais le chapelet nous propose une sorte d'arrêt sur image, si vous voulez, avec le mystère, pour modeler notre imagination, pour un peu arrêter notre cinéma intérieur et lui proposer autre chose à l'intérieur de nous-mêmes, avec l'incliner tout ce qui nous traverse devant le mystère du Christ. Puis si jamais on pense à autre chose, c'est pas grave, on revient, on se recueille à nouveau, et puis voilà, on peut jamais y être complètement, c'est sûr. L'intelligence, elle n'est pas en reste non plus, parce qu'on va savourer les mots qu'on dit, enfin on peut le faire, on peut essayer d'être dans, sans se crisper sur une concentration de tous les instants, mais simplement être dans la prière. Et puis la conscience et la volonté vont être pris en compte, notamment si on chante, par exemple, le chapelet, on peut chanter à certains moments, ça peut aider. Voilà. J'ai presque envie de dire que l'inconscient lui-même a sa place ici, parce que comme il y a des répétitions, au bout d'un moment on peut un peu décrocher, mais c'est pas grave, c'est comme l'épouse du cantique, vous savez, je dors mais mon cœur veille. Et voilà, et si vous endormez en priant votre chapelet, il y a des chances que vous vous réveillez dans la prière aussi. Voilà, et puis j'ai envie de dire comme Saint François de Sales, rien par force ou par amour. Donc si cette prière ne vous dit rien, priez autrement, c'est pas grave. Il y a des périodes dans la vie spirituelle aussi, hein. Mais simplement, je pense que c'est une prière que moi je vois un peu comme prophétique aujourd'hui, voilà. Mais c'est sûr que c'est pas un sacrement, voilà, c'est la vie sacramentelle qui est indispensable à notre relation à Dieu, mais la vie dévotionnelle, elle accompagne sa croissance, si vous voulez, mais faut pas se culpabiliser si pendant un moment vous avez pas dit votre chapelet, vous avez pas pu le dire, vous avez pas réussi à le dire. Sainte Thérèse de Lisieux, elle aimait pas du tout dire son chapelet, elle le dit carrément, mais elle en portait un toutes les nuits autour du cou, parce que ça la tranquillisait dans la nuit, voilà. C'est comme ça. Après, il y a d'autres saints. Carlo Acutis, il disait son chapelet tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il avait 15 ans, voilà. Et il est bien heureux. Donc chacun, en fait, trouve aussi sa manière de prier, mais je pense que c'est une prière que l'Église encourage parce que justement c'est une prière très unitive. Voilà. Et puis une dernière chose de cette prière, je dis c'est une prière altruiste, c'est-à-dire c'est une prière pour tous et pour les autres, c'est-à-dire c'est une prière qui marche avec tout le monde. Les enfants peuvent entrer dans cette prière très facilement, les personnes âgées, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut dire des dizaines en différentes langues, enfin, c'est une prière très universelle en fait. Et c'est surtout une prière qui nous décentre, parce que avec chaque dizaine, on peut demander, justement, puisqu'on a mis toute une homélie sur la demande, on peut demander au nom des autres, on peut demander à avoir une intention de prière. Et c'est vrai que je me rends compte que c'est une prière qui est tellement d'intercession que voilà, quand on est un peu trop centré sur soi-même, ça fait du bien de prier le chapelet. Parce qu'on va penser aux, en fait, ça nous fait forcément penser aux autres. Parce qu'on va dire la dizaine pour un tel, l'autre dizaine pour autre chose. Enfin, on va mettre des intentions. Et alors, voilà, ça nous décentre. Et ça, y a vraiment une puissance d'intercession. Et une puissance, du coup, de charité qui se déploie dans cette prière. Voilà, j'ai dû être trop longue, mais je pense que voilà. Pas petit à petit, de grain en grain, d'avis en avis, Marie nous aide à aller vers son fils. Et je termine avec un très beau texte de Peggy, parce que je ne peux pas m'empêcher. À toutes les créatures, il manque quelque chose. Ils n'ont point seulement de n'être pas créateurs. À celles qui sont charnelles, nous le savons, il manque d'être pures. C'est nous, les hommes, nous sommes charnels, mais on n'est pas purs. À celles qui sont pures, il faut le savoir, il manque d'être charnel, c'est les anges. Une seule est charnelle, ensemble étant pure. Et c'est pour cela que la Sainte Vierge n'est pas seulement la plus grande des bénédictions qui soit tombée sur la terre, mais la plus grande bénédiction même qui soit descendue dans toute la création. Elle est une créature unique, infiniment unique, infiniment rare. Voilà, je trouve ça très très beau. Bien sûr, c'est dans le nom de son fils, dans le don de son fils. Et je vous propose de terminer avec... la prière à Notre-Dame pour les JMJ. Je me suis dit que vous prépariez peut-être les JMJ un petit peu, je sais pas. Je vois qu'il y a une affiche. Voilà, donc c'est une belle prière à Marie de la Visitation. Et vous voyez que sur le logo des JMJ, il y a le chapelet. Alors bien sûr, parce que Portugal, il y a Fatima, et Fatima, Marie apparaît avec le chapelet. Mais
simplement, je vous dis, avant de prier, oui. C'est bien de terminer vraiment par la prière. Est-ce qu'on peut vous poser ?
Ah, bien sûr, oui.
Je vous dis, c'est peut-être...
On va faire ça, mieux, alors.
Et puis on priera vraiment tout bien.
D'accord, très bien, on priera là.
Est-ce qu'il y a une ou deux questions ?
Oui, j'ai une question sur les caractéristiques que Paul VI donnait, et sur la dernière, quand vous parliez du caractère anthropologique.
Oui.
J'ai pas très bien compris ce dont il s'agissait.
Alors, c'est... c'est pour qu'on soit pas dans une vision éthérée de la Sainte Vierge, mais quelqu'un d'un peu hors humanité ou pas concrète quoi.
Ah oui, okay.
Donc il dit voilà, ce culte doit encourager le fait que Marie elle a vécu deux fois, que Marie elle a été une femme comme les autres, et en même temps pas tout à fait comme les autres puisqu'elle dit oui toujours, elle est sainte, mais elle n'est pas hors humanité, quoi.
D'accord.
Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Parce qu'on a pu avoir des caractéristiques où on l'a... Vous voyez, quand Peggy dit elle est infiniment rare et ça, on comprend très bien que ça ne veut pas dire qu'elle est au-dessus du Christ ou je ne sais pas trop quoi, qu'elle est une déesse, non pas du tout, vous voyez. Simplement, là, ce qu'il dit, c'est qu'elle tient ensemble et la pureté et la charnélité. Et que c'est ça qui est magnifique dans cette créature de Dieu. Il l'a fait sainte et immaculée. Voilà. Et en même temps, c'est une femme, une vraie femme. Une femme de chez nous, de Judée. Voilà. Mais il y a eu des abus, si je puis dire, théologiques, où finalement, Marie n'avait plus rien d'humain. Elle était tellement... C'était éthéré, quoi. Une dévotion un peu éthérée.
Oui, une question. Vous avez dit que le chapelet, c'est une prière unitive. Mais parfois on peut s'y perdre, par exemple, parce qu'il y a, il y a beaucoup d'éléments, il y a à la fois le texte de la prière, et on peut se perdre dans les mystères, on peut se perdre aussi dans l'intention, et donc ça peut...
Oui, voilà, c'est pour ça que oui, peut-être. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément... Enfin, il faut voir si, si c'est une prière qui vous aide. Mais... moi, j'aime bien ce côté cette prière qui unit à la fois l'intelligence du mystère, l'écriture, le corps, et puis... la spiritualité, enfin, donc c'est pour ça que je dis que c'est unitif, c'est-à-dire c'est vraiment une prière qui unit corps à esprit. C'est pas une prière seulement intellective, ou voilà, c'est pas une prière seulement je sais pas, enfin je pense que toute prière est unitive en fait, en toute prière chrétienne, puisqu'on prie dans le Christ, et le Christ est incarné et en même temps Dieu, mais je trouve que ça se ressent en fait dans le chapelet. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Vous n'êtes pas obligé de... Ce que je dis, ce n'est pas parole d'évangile. Hein. Vous n'êtes pas obligé de... Je vous ai assommé, peut-être.
Merci beaucoup, ma sœur. C'était très bien. Merveilleux. Merci beaucoup.